Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 €, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 €, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Coucou, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Avec Joseph, on vous propose le match retour du débat entre V, le vegan, et C, le carniste. Et cette partie du livre de Michael Humer, Dialogue entre un carnivore et un végétarien, que je vous invite de nouveau à acheter et lire, parce qu'on n'en prend que quelques extraits. Cette partie donc se concentre davantage sur les aspects psychologiques ou sur la motivation morale du personnage C. C'est donc une sorte de psychologie du carniste, qui parle notamment de certains biais abordés avec Martin Gibert dans l'épisode de lundi dernier, et en présente d'autres. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir fait des retours très positifs après la première partie, donc j'espère que cette seconde partie vous plaira tout autant. C'est parti!
C et V partagent de nouveau un repas vegan dans le restaurant où ils s'étaient retrouvés la première fois. C confie à V ne toujours pas être convaincu que l'élevage intensif est un problème éthique grave. Il n'arrive pas à dire précisément ce qui serait faux dans le raisonnement de V, mais il trouve la conclusion folle ou aberrante, et pense donc qu'il doit y avoir un problème dans la démonstration.
Ok, alors, prenons un exemple. Tu connais une Alice, et t'es certain a priori que c'est quelqu'un de bien. T'es convaincu par ailleurs que quelqu'un de bien ne tuerait pas pour de l'argent. Du coup, suppose maintenant que t'apprends, à ta grande surprise, qu'Alice a tué quelqu'un pour de l'argent. Qu'est-ce que tu dois conclure ? Petit A, qu'Alice n'est finalement pas quelqu'un de bien, ou petit B, que quelqu'un de bien peut tuer pour de l'argent ?
Évidemment, je vais prendre la réponse A.
Ouais, d'accord. Et notre problème, c'est le même. Tu pars du principe qu'il est normal de manger de la viande, ou du moins que c'est pas si grave. Tu penses aussi par ailleurs que c'est grave de causer d'énormes souffrances pour des raisons insignifiantes. Et là, t'apprends que la consommation de la viande cause d'énormes souffrances pour des raisons insignifiantes. Et du coup, qu'est-ce que tu conclus ? Petit A, qu'il est grave de manger de la viande, ou petit B, qu'en fait c'est pas si grave que ça de causer d'énormes souffrances pour des raisons insignifiantes.
Ok, je vois l'analogie. Mais pourquoi ta conclusion, elle semble toujours si difficile à croire ?
Je sais pas, je vois plusieurs explications.
Commence par la plus probable.
Ok, alors premièrement, peut-être le biais du statu quo.
C'est quoi ce truc ?
C'est un biais cognitif qui nous détermine à préférer les pratiques qu'on connaît déjà. Donc quand les gens autour de nous agissent d'une façon qui ne suscite pas la réprobation, alors on a tendance à conclure que ce comportement est normal et acceptable.
Attention, parce que je ne crois absolument pas que ce qui est communément accepté ne peut pas être grave.
Ouais, très peu de gens en sont à ce point convaincus. Le biais de statu quo, c'est pas une croyance explicite. Les pratiques auxquelles on est habitué nous paraissent tout simplement normales, et ça conditionne notre façon de penser. Le plus souvent, on s'en rend même pas compte. C'est la raison pour laquelle des gens de cultures différentes trouvent généralement normales, voire bonnes, des pratiques radicalement différentes. Et c'est ce qui explique aussi qu'une proposition visant à modifier radicalement ces pratiques peut nous sembler folle.
Ouais, mais cette tendance, c'est peut-être une bonne chose. C'est comme ça qu'on peut préserver notre culture, nos traditions.
Ouais, peut-être. Et ça incite à pas voler, à pas conduire du mauvais côté de la route, etc. Mais ça peut aussi nous mener à des atrocités de masse. Avant le XXe siècle, de nombreuses personnes avaient tendance à accepter l'esclavage, à traiter les esclavagistes avec respect et les esclaves en fuite comme des criminels.
Donc tu penses que l'élevage intensif, c'est l'esclavage d'aujourd'hui, quoi?
Ouais, je pense, ouais. Nos sociétés ont jamais été parfaites du point de vue moral. Il y a toujours eu, à un moment ou un autre de notre histoire, des points aveugles que les générations futures, avec le recul, ont fini par reconsidérer. L'esclavage, ça en fait partie. Et il serait surprenant que l'époque contemporaine soit la première de l'histoire à être complètement exempte de toute faute morale, non?
Non mais c'est sûr, mais ça signifie pas pour autant que l'élevage intensif, c'est une de ses fautes.
Ouais, bah là, c'est ce qu'on essaie de déterminer. Mais à première vue, le mouvement pour le bien-être animal semble s'inscrire dans la lignée des progrès moraux du passé. Une grande partie d'entre eux a consisté à surmonter les préjugés contre les groupes non dominants. Préjugés qui sont fondés sur l'appartenance ethnique, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle.
Et le préjugé fondé sur l'espèce.
Et bah voilà, c'est la prochaine étape.
Non mais c'est pas tout à fait la même chose. Les différences relatives au sexe et à l'appartenance ethnique n'ont de toute évidence rien à voir avec la morale. Elles n'ont pas d'incidence sur tes droits, l'importance de tes intérêts ou quoi que ce soit du genre. Les différences entre les espèces, en revanche, elles posent clairement un problème moral.
Il y a 2 siècles, on considérait que les différences de sexe et d'appartenance ethnique étaient évidemment importantes d'un point de vue moral. À l'époque, les abolitionnistes et les partisans du droit de vote accordé aux femmes étaient perçus comme de dangereux extrémistes.
Quand j'y réfléchis, j'ai pas l'impression que j'accepte de manger de la viande simplement parce que d'autres personnes le font.
Ouais, mais on se trompe souvent sur les raisons pour lesquelles on a telle ou telle intuition ou telle croyance. On ignore la plupart des facteurs qui déterminent notre façon de voir le monde. Le biais de statu quo est un phénomène bien connu et extrêmement répandu. Je vois pas pourquoi toi t'y échapperais.
Non mais parce que je m'oppose très souvent au statu quo. Par exemple, je m'oppose au président actuel là, et à bon nombre de ses décisions politiques.
Ouais, c'est vrai, mais manger de la viande, c'est une chose à laquelle on assiste tous les jours, parce que tout le monde le fait, ou presque. On entend seulement parler des politiques gouvernementales dans les médias. En plus, tes opinions politiques, elles rencontrent plus de preuves sociales.
Mais qu'est-ce que t'entends par preuves sociales?
Bah, c'est un peu comme le biais du statu quo. Les gens ont tendance à croire ce que les autres croient, ou du moins à croire des choses qui sont proches de ce qu'une bonne partie de leurs semblables croient. Un point de vue trop éloigné de l'opinion dominante aura tendance à nous paraître fou.
Ben, il me semble toutefois que cette explication-là, elle ne vaut que s'il existe déjà d'autres raisons pour lesquelles ton opinion elle est marginale. Le facteur que tu décris ne contribue qu'à la rendre plus marginale encore.
Ouais, c'est vrai. Un autre facteur qui entre en jeu, c'est l'intérêt personnel. Les gens ont tendance à croire davantage ce qui est susceptible de servir leurs propres intérêts. Au temps de l'esclavage, par exemple, les propriétaires d'esclaves avaient intérêt à croire que l'esclavagisme était acceptable. Sinon, il aurait fallu qu'ils renoncent et acceptent de perdre beaucoup d'argent. En plus, cela leur aurait envoyé une image plutôt déplaisante d'eux-mêmes.
Bien sûr, c'est dans mon intérêt de continuer à manger de la viande, et je préfère penser que c'est acceptable quand j'en mange. Mais j'ai pas l'impression d'être influencé de cette façon.
Ouais, c'est tout à fait normal. La plupart des gens ont pas conscience des biais qui les influencent. T'as l'impression que la conclusion de mon raisonnement est folle, et tu sais pas pourquoi. Donc ton impression découle probablement de facteurs inconscients.
Ouais, ok, je vois. Mais c'est tout ?
Pas encore. Il y a un autre facteur qu'on appelle l'heuristique d'affect. C'est la tendance à évaluer la gravité morale d'une situation en fonction de la réaction émotionnelle que celle-ci suscite en nous.
Mais je vois pas où est le problème. En général, plus quelque chose est grave, plus je me sens mal, et plus une situation est agréable, bah, mieux je me porte.
En général, ouais. Mais il y a au moins 2 raisons pour lesquelles on peut penser qu'on se trompe dans le cas de l'éthique animale. La première, c'est que notre capacité d'empathie avec les autres espèces est limitée. C'est plus difficile de s'identifier à d'autres espèces qu'à d'autres humains. Et on a donc des réactions affectives limitées lorsqu'on pense à la souffrance animale par rapport à la souffrance humaine.
Ok, mais on pourrait tout à fait renverser l'explication. Mon empathie pour la souffrance animale est peut-être plus faible parce que je sais qu'elle est moins grave que la souffrance humaine.
Ouais, mais ça me semble pas très probable. Il y a une meilleure explication. L'être humain a évolué comme animal social. Les capacités d'empathie ont sans doute évolué de manière à faciliter les interactions entre êtres humains du même groupe plutôt que vis-à-vis des autres espèces. D'où le fait qu'on n'ait pas autant d'empathie pour les autres espèces.
On dirait que t'aimes une hypothèse là.
Oui, complètement. J'essaye simplement de proposer des explications crédibles à tes intuitions.
Ok, mais quel est l'autre problème avec l'heuristique d'affect ?
Bah, c'est celui, bien connu, relatif aux grandes quantités. On est incapable de les saisir intuitivement. Du coup, quand on imagine de grandes quantités d'une chose supposément bonne ou mauvaise, notre réaction affective augmente pas du tout proportionnellement.
Mais c'est pas plus mal ça, parce que sinon, le simple fait de suivre l'actualité, ça nous plonge dans un état constant d'agonie émotionnelle.
Ouais, c'est vrai. Et si t'entends parler d'un désastre qui a tué 5 personnes, t'es attristé par la nouvelle. Mais si t'apprends que quelqu'un a tué 5000 personnes, tu seras pas 1000 fois plus triste.
Ouais, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas atteint le seuil maximal d'empathie ?
Mais pas vraiment. Notre sensibilité est pas toujours proportionnelle à la gravité des événements. Je peux très bien être plus attristé par le décès d'une personne qui me serait racontée avec une grande précision par quelqu'un de sensible et d'expressif que par la mort d'un million de personnes. De nombreux facteurs affectent notre réponse émotionnelle et c'est clair que celle-ci n'est pas du tout proportionnelle à l'ampleur de l'événement.
Mais du coup, on est incapable de se représenter la gravité de certaines catastrophes en fait.
Effectivement, c'est ce qui se passe quand on parle de quelque chose qui arrive à des milliards de créatures. Notre esprit peut pas appréhender ni réagir proportionnellement à de telles quantités. Nuire à un milliard d'individus est mille fois plus grave que nuire à un million d'individus, et pourtant on le ressent pas ainsi.
Mais j'ai pas l'impression qu'on est aussi perdu quand on se représente des drames humains. Si je demandais autour de moi à quel point tuer un milliard de personnes est pire que tuer une seule personne, moi je te parie que la plupart des gens répondront un milliard de fois pire.
Ouais, probablement. Mais dans ce cas, ils se fient pas uniquement à leur intuition morale pour faire la comparaison. Ils ne font que regarder les chiffres. C'est lorsqu'on compare des mots qui ne sont pas sur le même plan que se déploie l'heuristique d'affect.
Donc, si je résume, tu refuses qu'un jugement moral soit fondé sur des affects.
Non, pas nécessairement, pas dans tous les cas. Simplement, dans certaines situations, on sait d'avance que ce type de jugement ne peut pas être fiable.
Mais pour pouvoir affirmer que l'heuristique d'affect n'est pas fiable dans telle ou telle situation, il faut déjà savoir quel est le bon jugement moral. Si ce processus nous éloigne de la vérité, il n'est pas fiable. Mais s'il nous aide à trouver la bonne réponse, là, il l'est.
Non, quand je dis que l'heuristique d'affect n'est pas fiable, j'entends par là que ça peut pas être suffisant pour atteindre la vérité. L'heuristique d'affect nous conduira toujours à juger les intérêts humains comme étant plus importants que les intérêts des animaux, que cela soit vrai ou non. Donc même si tu abordes au départ la question sans préjugés, tu peux pas te fier à tes réactions émotionnelles pour déterminer si les intérêts humains comptent davantage.
Non mais ok, mais le problème des grands nombres, il peut être évité si on demandait simplement aux gens de penser à des cas particuliers. Par exemple, une vache dans une ferme industrielle pendant une journée et une personne toute seule en train de savourer un hamburger. On devrait pouvoir comparer ces deux situations, non ?
Ouais, t'as raison. On éviterait du coup le problème des grands nombres. Mais on serait toujours sujet aux autres risques de biais que j'évoquais.
Ouais, mais quand je pense à une vache dans une ferme industrielle, ça me semble pas si grave.
Vraiment ? Moi, quand j'y pense, ça me paraît très grave. Bien plus grave que d'être privé du plaisir d'un hamburger.
Non mais moi j'imagine qu'on a deux intuitions fondamentalement opposées, mais je me demande pourquoi nous avons des réactions si différentes.
On n'a pas tous la même capacité d'empathie envers les autres espèces.
Non mais ok, c'est vrai, j'ai du mal à compatir avec une vache. Mais pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à tes intuitions plutôt qu'aux miennes ?
Et tu te souviens de tous les biais qu'on a évoqués ? Le biais de statu quo, le problème des preuves sociales, l'intérêt personnel, la difficulté de s'identifier à d'autres espèces ?
Ouais mais tes intuitions, elles sont aussi biaisées hein ?
Comment tu sais ?
Tu viens de l'admettre, tu compatis avec les animaux, donc ça biaise ton jugement moral.
J'ai dit que cela expliquait la différence entre nos réactions, pas que c'était un biais de ma part.
Donc tu penses pas que l'empathie puisse fonctionner comme un biais ?
Je vois aucune raison de penser que c'est un biais dans cette situation. Pense aux psychopathes. Les psychopathes ont zéro capacité d'empathie en général. Est-ce que ça veut dire qu'ils portent des jugements moraux qui soient plus objectifs ou moins biaisés ?
Je suis pas sûr qu'ils portent le moins de jugement moral, hein.
Ouais, exactement. Leur manque d'empathie les empêche de prendre en compte l'expérience d'autrui. Ça ne les rend pas objectifs, ça les rend complètement aveugles à la morale.
Ouais, ok, un manque total d'empathie, c'est problématique. Mais trop d'empathie, c'est aussi un problème. Une de mes amies a trop d'empathie et ça lui gâche la vie. Elle est très angoissée par les problèmes des autres, elle s'est même lourdement endettée en essayant d'aider des proches.
Ouais, ok, dans ce cas, ça semble être un problème. Mais je suis pas sûr que ce soit pertinent.
Pourquoi pas ? Tu parlais de l'importance de l'empathie.
Oui, mais je dis pas que l'empathie est toujours une bonne chose dans toutes les situations. À l'évidence, elle l'est pas du point de vue de l'intérêt personnel. Ce que je veux dire, c'est que l'empathie nous aide à percevoir des facteurs moralement pertinents et qui dépendent des intérêts des autres. Sans elle, on se soucierait que de nos propres intérêts. Donc ton ami trop empathique a du mal à promouvoir ses propres intérêts. Mais elle réussit probablement très bien à évaluer l'importance morale des intérêts d'autrui.
Ouais, ok, j'ai compris. Mais trop d'empathie peut aussi conduire à faire des erreurs morales. Par exemple, on pourrait donner de l'argent à des organismes caritatifs qui mettent en scène la manière dont ils aident les gens, comme ceux où on parraine un enfant et on reçoit des photos de lui. Et au lieu de donner à des organismes qui n'envoient pas des photos, mais qui sont en réalité bien plus efficaces. Et c'est l'empathie qui est en cause là.
Ok, ouais, c'est vrai aussi. L'empathie n'est donc pas suffisante pour faire des bons choix moraux, mais elle peut s'avérer quand même nécessaire. On en a besoin pour être touché et tenir compte d'autres intérêts que les nôtres. On aura toujours besoin de la raison pour décider de ce qu'il faut faire, mais sans la capacité d'empathie, on peut juste ignorer les autres intérêts. Comme les psychopathes qui ignorent les intérêts des autres et les humains qui ignorent les intérêts des animaux.
Mais je manque pas de capacité d'empathie, j'ai juste plus de mal à m'identifier à d'autres espèces que la mienne, ce qui est parfaitement normal.
C'est normal, en effet. Mais il est vrai aussi que cela t'empêche de tenir pleinement compte de l'expérience des autres individus. Cela te rend pas plus objectif, mais plutôt moins conscient.
Je sais, mais les arguments que tu m'as donnés pour démontrer qu'il s'agissait pas d'une réponse rationnelle sont peut-être eux-mêmes de très astucieux sophismes.
Ouais, mais si tu réponds ça, je pourrais jamais te convaincre. Quoi que je dise, tu considéreras que j'ai peut-être tort pour une raison que tu peux pas identifier, et ça s'appelle être complètement dogmatique.
Non, je suis pas dogmatique. Je dis pas avec certitude que tu te trompes, je dis simplement que je suis pas totalement convaincu. Et je dis pas que je serai jamais convaincu, simplement j'ai besoin d'y réfléchir davantage.
Ok. Donc pour l'instant, tu es pas certain que ce soit mal de manger de la viande. Mais est-ce que tu crois que c'est obligatoire de manger de la viande ?
Non mais joue pas à l'idiot, j'ai simplement dit que ça pourrait être moralement acceptable.
Ok, donc il se peut que ce soit grave, mais il se peut aussi que ce soit acceptable. Alors voilà ce que je te propose. T'arrêtes d'en manger, jusqu'à ce que tu sois sûr de la réponse. S'il y a une chance que ce soit extrêmement grave, vaut mieux arrêter avant d'en être certain, non ? Tu préfères être prudent là, non ?
Ouais, en général, ouais. Mais je peux pas éviter toutes les actions qui pourraient être mauvaises. Je veux dire, il y a toujours une chance que ce que je fais puisse être grave, et je vais pas arrêter complètement d'agir.
Mais je te demande pas d'éviter toutes les actions qui ont une infime probabilité d'être moralement grave. Ce que je dis, c'est évite de faire quelque chose qui a de fortes chances d'être très grave. Et si t'as aucune raison morale de le faire, bah tu peux éviter sans que ça te coûte grand-chose.
Ouais, c'est difficile de s'opposer à ça, mais tant que j'ai pas réfléchi à tous les arguments, je sais même pas si je peux dire qu'il y a de fortes chances que tu aies raison.
Non, là je pense que t'en sais assez pour dire qu'il y a au moins une bonne chance. Tu sais que la question tourne autour d'une intuition morale quant à la gravité de la souffrance animale, et tu sais que cette intuition est partagée par de nombreuses personnes qui semblent raisonnables, intelligentes et moralement sensibles.
J'imagine qu'on peut voir les choses comme ça, ouais.
En fait, la plupart de ces personnes considèrent cette intuition comme extrêmement évidente. La grande majorité des spécialistes de l'éthique s'entendent également sur le fait que la consommation de viande dans notre société est un problème grave de manière générale, ou estiment en tout cas que c'est une question majeure.
Mais la plupart des gens dans notre société semblent penser que c'est pas un problème de manger de la viande, tout comme la plupart des philosophes.
C'est vrai. Mais il y a une divergence entre d'un côté les spécialistes de l'éthique qui travaillent sur le sujet, et de l'autre les profanes et les philosophes qui travaillent dans d'autres domaines. Tout ça est très clair, quoi que tu penses personnellement des arguments que j'ai avancés. Autrement dit, t'as pas besoin d'être parfaitement sûr de ce que tu penses de la démonstration pour savoir que la plupart des spécialistes de l'éthique travaillant sur le sujet affirment qu'il est grave de manger de la viande.
Ok, mais je crois pas qu'il faille simplement s'en remettre aux experts sur un sujet aussi controversé que celui-ci. Hein.
Je dis pas qu'on devrait se contenter de s'en remettre des experts. Je dis que l'opinion de ces experts, en plus de la plausibilité des arguments dont on vient de discuter, devrait quand même suffire à ce que tu penses qu'il y a au moins une bonne chance que j'ai raison. Au moins jusqu'à que tu sois capable de présenter un bon contre-argument.
Ah, ok, t'as peut-être raison, mais devenir végétarien, ça va rendre ma vie carrément moins facile, et je peux pas m'engager dans un si grand changement de vie.
Et si t'essayais d'être végétarien simplement jusqu'à la semaine prochaine, et on en reparle à ce moment-là.
Ok, j'espère que tu apprécies l'immense sacrifice que je suis en train de faire pour toi.
C et V se retrouvent de nouveau une semaine plus tard, au même endroit. Après une semaine sans manger d'animaux, C se dit qu'il ne pourrait jamais être vegan, qu'il n'aurait jamais assez de volonté pour le rester.
Mais tu penses vraiment que devenir végétarien est une décision aussi facile et évidente que refuser de tuer pour de l'argent ?
Au fond, oui. La question cruciale est celle qui demande si l'on peut soutenir quelque chose qui cause une douleur et des souffrances énormes pour pouvoir en retirer un tout petit bénéfice. Il n'y a rien d'autre à prendre en compte. Il ne s'agit pas de savoir si les vies humaines ont plus de valeur que les vies animales, s'il y a des droits, et quel est le fondement des droits. Ce qui compte, c'est simplement de savoir si on cause de grandes souffrances pour des petits bénéfices.
Ok, tes arguments semblent rationnels, mais je pense pas pouvoir arrêter la viande, c'est trop difficile et j'ai pas de volonté.
Je pense pas que ce soit vrai.
Non, je te le dis, je suis pas prêt à arrêter la viande, tu penses que je mens ?
Non, bien sûr, mais les gens se trompent souvent sur la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et si tu continues à manger de la viande, c'est pas parce que c'est trop difficile d'arrêter.
Mais qu'est-ce que tu veux dire là ?
Ok, imagine, t'es dans un restaurant et t'es sur le point de commander de la viande. Juste avant que le serveur arrive, je viens de proposer 20 euros pour commander un plat végétarien à la place.
Ok, 20 balles, dans la plupart des restos, c'est carrément ce qu'il faut pour déjà tout un déjeuner. Hein.
Bah, tu prends les 20 balles ?
Ouais, mais ouais, bien sûr.
Du coup, c'est pas si difficile que ça de t'abstenir de manger de la viande si 20 balles suffisent à te faire changer d'avis.
Mais c'est évident qu'y renoncer une fois, c'est pas dur. Mais sur plusieurs semaines, c'est carrément autre chose. Déjà, le goût, il commencerait à me manquer. Et tu trouves pas que c'est une lutte terrible de rester vegan ?
Non, pas vraiment.
Bah, tu dois avoir une sacrée volonté de faire. Jour après jour, voir passer toute cette barbaque délicieuse. C'est... Non, mais en vrai, c'est quoi ton secret, quoi ?
Mais je me pose pas la question, en fait. Je décide pas à chaque fois que je dois manger si je vais être vegan ou non. Si je devais décider à chaque repas, j'imagine que là, ce serait difficile.
Non mais comment ça se fait que tu te poses pas la question ? Moi, j'ai pas cessé d'y penser la semaine dernière.
Mais quand quelque chose est grave, je me pose pas la question. J'ai décidé une bonne fois pour toutes, il y a 3 ans, que la consommation de viande était moralement grave. Et j'ai trouvé aucune raison d'en douter. Donc, bah, je me débats plus avec cette question.
Ah non mais, je parie qu'il t'arrive quand même de mal agir de temps à autre. Vas-y, avoue.
Je me pose la question que pour des choses que je trouve très graves. Voler un trombone, ok, là, ça passe. Mais agresser quelqu'un, bah là, non, j'ai même pas besoin d'y réfléchir.
Ouais, mais je sais pas si je suis capable de me mettre dans cet état d'esprit. Hein.
Bon, quand tu vois une personne qui te plaît dans la rue, est-ce que tu te débats avec toi-même pour savoir si, oui ou non, tu peux aller le ou la ploter ?
Non, mais je ferais jamais un truc comme ça.
Ouais, quand quelqu'un t'énerve, est-ce que tu luttes pour te contrôler et est-ce que tu décides si, oui ou non, tu peux gifler cette personne ?
Non, non plus.
Bah voilà, tu sais que tu fais juste pas ce genre de choses. Donc y a pas de question à se poser, pas de dilemme.
Non mais, j'arrive pas à adopter cet état d'esprit pour la question alimentaire. Cette semaine a été très difficile, j'ai vraiment envie d'un steak maintenant.
Ok, c'est parti, une autre expérience de pensée. Si t'es privé de viande pendant 3 semaines, et tu meurs d'envie d'un steak, encore plus qu'aujourd'hui. On déjeune avec le professeur Carney, et il y a un steak dans son assiette. Et il aime couper sa nourriture en tout petits morceaux. Tu pourrais lui piquer un morceau de viande avec ta fourchette, et supposons que c'est le seul moyen pour toi de manger un steak. Est-ce que là tu le fais ?
Mais... est-ce que ce serait immoral à ton avis ? Il l'a déjà commandé, hein.
Non mais peu importe ici, je te demande pas ce que tu devrais faire. Je pose une question psychologique. Est-ce que tu prendrais le morceau de steak dans l'assiette de Carney ?
Bah ça risque de pas lui plaire, hein.
Bah alors imagine qu'il est parti un instant aux toilettes.
Non mais il pourrait le remarquer quand il revient.
Non mais il remarquera jamais l'absence d'un morceau, et quand bien même, qu'est-ce que ça changerait ?
Bah allez, peut-être que j'en prendrais un petit bout.
Mais en vrai, tu ferais vraiment un truc comme ça ?
Non, en vrai t'as raison.
Et la question est pourquoi ?
Bah, peut-être simplement parce que ça se fait pas.
Et du coup, même si tu ressens ce soi-disant irrésistible besoin de steak ?
Non mais, tu cherches à prouver quoi là ? La puissance des conventions sociales ? Oui, j'ai en moi 2 pulsions, mais celle qui me pousse à me conformer aux conventions est si forte que jamais je pourrais lui piquer un morceau de steak.
D'accord. Et du coup, disons que tu lui demandes un morceau de son steak et qu'il accepte, mais en échange de 20 balles. On est d'accord, du point de vue des conventions sociales, il n'y a aucun mal à accepter cette offre.
Non mais c'est hyper bizarre, mais c'est pas vraiment inacceptable socialement.
Et il se trouve que t'as un billet de 20 balles dans ta poche. Tu le lui donnes ?
Non mais 20 balles pour une bouchée ? Non mais non, jamais.
Mais du coup, qu'est-ce que tu fais de ta terrible, presque irrésistible envie de steak ?
Bah déjà, une bouchée, ça suffirait pas.
Ok, alors s'il te propose de te vendre le steak entier pour, disons, 100 balles.
Ouais, c'est super cher.
Ouais, mais tu remarques que tes réactions sont quand même très différentes de celles d'un toxicomane. Le toxicomane, il n'hésiterait pas à débourser 100 balles pour une dose. C'est parce qu'être dépendant, ça génère des pulsions insurmontables. Toi, tu peux y résister.
Bon, ok, très bien. J'imagine que c'est pas si difficile de s'abstenir de manger de la viande, mais je dois juste être un énorme salaud égoïste. Merci de me le faire remarquer. Hein.
Non mais je pense pas que ce soit ça non plus. Imaginons encore autre chose. T'es à la bibliothèque, tard le soir, t'aperçois un bureau où un étudiant travaillait. Et il est parti aux toilettes, il a laissé son sac à dos, avec dessus son portefeuille. Tu pourrais le prendre et partir, personne n'en saurait rien. Est-ce que tu prends le portefeuille ?
Non mais je suis pas un voleur.
Bien, mais un vrai salaud égoïste le prendrait, non ?
Ouais, ok, mais alors à ton avis, qu'est-ce qui fait mes choix là ?
Bah la conformité sociale. Le vol est désapprouvé dans nos sociétés et t'as intériorisé cet interdit. Manger de la viande, ça l'est pas. Presque tout le monde autour de toi en mange. C'est pour ça que tu continues à manger de la viande, peu importe à quel point c'est grave, alors que tu te refuses à voler, peu importe à quel point ça pourrait être bénéfique.
Donc, t'es en train de me dire que tout se résume à la pression sociale ?
Ouais. Maintenant, tu comprends pourquoi je te jugeais plutôt.
Mais donc, ça veut dire que t'étais en train de chercher à exercer une pression sur moi ?
Mais c'est la principale manière par laquelle la moralité s'impose dans les sociétés humaines. D'autres personnes expriment leur désapprobation vis-à-vis d'un comportement considéré comme mauvais, et ça nous incite à abandonner ce comportement. Sans désapprobation, la plupart d'entre nous, on continuerait à agir de la même façon. C'est pourquoi les gens qui savent qu'une pratique est grave doivent constamment le répéter.
Ouais bon, alors à t'entendre, on est des bien faibles créatures qui ne peuvent s'empêcher de faire ce que les autres font, même quand c'est super grave en fait.
C'est un peu ça, oui. Si t'avais vécu dans le sud des États-Unis au 19e siècle, t'aurais probablement trouvé l'esclavage tout à fait naturel.
Ouais, ok. C'est ce que t'évoquais en fait tout à l'heure avec le biais du statu quo. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a déjà accepté l'idée que c'est grave de manger de la viande, mais qu'on n'arrive pas à y renoncer?
C'était la même chose avec l'esclavage. Thomas Jefferson était un grand opposant à l'esclavagisme, alors qu'il possédait lui-même des esclaves. Si Jefferson était encore en vie, est-ce que tu crois qu'il aurait encore des esclaves?
Non. Mais en fait, aujourd'hui, seul un monstre aurait des esclaves, mais je vois pas où tu veux en venir.
Bah, j'en reviens au conformisme social. Si Jefferson ne pouvait pas libérer ses esclaves, c'est pas parce qu'il avait un besoin irrépressible d'être un propriétaire d'esclaves. Pas même parce que ça allait à l'encontre de ses intérêts, même si c'était effectivement le cas. Mais parce que d'autres, dans la société où il vivait, possédaient des esclaves et cautionnaient cette pratique. Et ça érodait sa motivation morale. S'il avait vécu à notre époque, bah cette idée lui aurait même pas traversé l'esprit parce que c'est unanimement condamné.
Est-ce que tout ce que t'es en train de dire là, c'est censé m'aider à arrêter de manger de la viande?
Oui. Si tu penses que t'y arrives pas à cause d'irrésistibles pulsions carnivores, ou tout simplement parce que t'es égoïste, alors c'est peu probable que t'essayes. Mais si tu réalises que tu consens presque chaque jour à des sacrifices comparables, et que c'est pas si difficile au fond, bah t'auras plus de chances d'y parvenir. La raison pour laquelle tu fais d'autres sacrifices, mais pas celui-là, c'est une très mauvaise raison. C'est parce que très peu de personnes font pression sur toi.
Non mais hey, franchement, vous les véganes, là, vous êtes de vrais moralisateurs. Hein. Vous êtes toujours là à donner des leçons et je suis vraiment pas sûr de vouloir vous ressembler. Hein.
Ouais, mais j'espère que tu comprends maintenant pourquoi on est si moralisateurs comme tu dis.
Ouais, mais c'est parce que vous prenez du plaisir à contrôler les autres et à vous sentir supérieur à eux.
Non, c'est pas ça. J'aimerais bien pas avoir à faire tout ça. J'aimerais que l'industrie de la viande soit éthique et que je puisse consommer ces produits. Ou au moins, qu'on sache tous que c'est immoral. J'aimerais plus avoir à me répéter sans cesse, et ça m'éviterait bien des tensions avec tous les autres.
Donc, tu veux dire que tu t'es fait des ennemis en devenant végétarien?
Ouais, pas exactement. La plupart des gens respectent mes choix alimentaires tant que j'en parle pas. C'est quand je commence à dire qu'ils devraient arrêter de manger de la viande que là, ils se mettent en colère.
Ok, mais comment ça se passe?
Bah, très souvent, ils expliquent que les véganes sont, comme tu dis, excessivement moralisateurs ou satisfaits d'eux-mêmes, et ils pensent même pas qu'on puisse sincèrement se soucier du bien-être des animaux. Ou alors ils nous font passer ironiquement pour des défenseurs des droits du brocoli, sans même parler de leur déclaration d'amour pour le bacon.
Ouais, mais bon, quand on accuse quelqu'un d'être immoral, il faut aussi s'attendre à une petite contre-attaque, hein.
Bah, en tout cas, moi, je réagis pas comme ça. Quand tu rencontres un catholique très croyant, est-ce que tu lui dis à quel point tu aimes l'avortement et que tu comptes bien réaliser quelques avortements plus tard dans la journée?
Bon, il s'avère que moi, perso, je suis pour l'avortement, mais je ferais pas ça, parce que c'est hyper offensant.
Et tu leur dirais que les catholiques se sentent tout le temps supérieurs et veulent dicter la conduite de tout le monde?
Non, mais je suppose que les catholiques sont animés par une certaine représentation du divin et de ce que Dieu il attend de nous.
Et pourtant, plein de carnivores refusent d'envisager que les véganes agissent conformément aux exigences de la morale telles que eux la comprennent.
Mais alors pourquoi est-ce que tu t'entêtes? Pourquoi tu gardes pas ton véganisme juste pour toi?
Mais parce qu'il faut en parler.
Je vois pas pourquoi. T'es pas responsable du fait qu'ils mangent de la viande. T'as pas pour mission de t'assurer de la moralité des autres. Par exemple, t'as pas à vérifier que tes voisins ils trompent pas leur conjoint. Chacun d'entre nous n'est responsable de la moralité que de ses propres actions.
C'est peut-être vrai en général, mais je crois que là on a affaire à un problème particulier.
Mais je vois pas en quoi.
Bah d'abord parce que chaque fois qu'un tort a été commis par le passé, genre l'esclavage, le colonialisme, l'oppression des femmes, bah les victimes ont pu s'exprimer, et l'ont fait de fait. Mais là, pour le problème des animaux, vu qu'ils parlent pas le langage humain et qu'on fait pas beaucoup d'efforts pour les comprendre de toute façon et qu'on les silencie activement, ils ont quand même besoin que certains humains, ceux qui s'en rendent compte, parlent un peu pour eux, non? Du coup, c'est quand même à nous qui revient de faire ça. Autrement, ça s'arrêtera jamais.
Ouais, mais moi, je pense pas vraiment être prêt à faire ça. Ça va être hyper désagréable si, en fait, à chaque fois que je mange avec quelqu'un, bah, je lui dis qu'il est immoral.
Ok, bah, une autre analogie. Tu te souviens du massacre de My Lai?
C'est la tuerie de masse en Asie, non?
Ouais, pendant la guerre du Vietnam. Et bah, les soldats américains ont anéanti un village entier de Vietnamiens.
Ouais, je sais, c'est une horreur.
Bah imagine, t'es l'un de ces soldats. Et certains sont en train de tirer sur des villageois, les jettent dans une fosse commune et tout, et les villageois sont complètement désarmés. Ils peuvent même pas plaider pour leur propre vie, parce qu'ils parlent pas anglais. Qu'est-ce que tu fais?
Bah je refuse de tirer sur les villageois.
Ouais, de fait, certains soldats ont refusé de prendre part au massacre. Mais ça a pas suffi pour l'empêcher.
Ouais, mais tu suggères quoi, là?
Bah, y a personne d'autre que les soldats et les villageois, là. Les villageois peuvent rien faire pour arrêter le massacre. Donc, il faut que ce soit aux soldats de le faire. Ceux qui mesurent la gravité de ce qui se passe doivent essayer de l'empêcher.
Ouais, mais comment je pourrais faire? Comment je pourrais arrêter un truc comme ça?
Bah, je sais pas, mais je pense que le minimum serait de dire aux autres soldats qu'ils sont en train de commettre un crime de guerre et qu'ils doivent y mettre un terme.
Non, mais je pense pas que ça marche. Ils continueraient de toute manière le massacre, en fait.
Mais peut-être, oui, mais tu devrais au moins essayer. Tu devrais pas rester là, aller regarder les bras croisés, parce que tu penses « Oh, ça va être gênant socialement si je fais remarquer à mes potes qu'ils commettent un crime de guerre. » Ou « Ils vont me trouver moralisateur. »
Ouais, mais si je mets les gens vraiment mal à l'aise, ils arrêteront pas à manger de la viande, ils arrêteront juste de traîner avec moi, hein.
Ouais, t'as raison. Faut donc trouver un équilibre entre garder le silence face à quelque chose de grave et se mettre à dos la moitié de ses amis. Mais tu dois quand même exprimer le fait que manger de la viande, c'est mal. Mais d'une manière calme et rationnelle pour pas avoir l'air fou.
Ouais, mais... Eh, en parlant de folie, tu penses pas que certaines de tes comparaisons, elles sont quand même un peu exagérées? T'es en train de mettre sur le même plan la consommation de viande, l'esclavagisme, le massacre d'un village d'innocents. Sincèrement, je prétends absolument pas être un saint, mais je suis certainement pas un nazi juste parce que j'aime manger des hamburgers de temps en temps, hein.
C'est ce que disent la plupart des gens. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils continuent à manger de la viande, même lorsqu'ils ont conscience qu'ils devraient arrêter.
Parce que nous ne sommes pas des saints.
Et qu'on cherche pas à le devenir. La plupart des gens ont une forme de tolérance pour les choses immorales. Ils n'aspirent pas à être irréprochables, ils veulent simplement pas être trop mauvais du point de vue moral.
Ok, je reconnais, je suis qu'un homme, et il m'arrive de tricher un peu avec la vérité quand je cherche à séduire quelqu'un. Je sais bien que c'est pas bien, mais je prétends pas être parfait, en tout cas, j'essaie de me rattraper en étant très sympa.
Mais c'est pas l'enjeu ici. Les idées qu'on a abordées laissent pas entendre que manger de la viande serait une petite faiblesse. Comme mentir pour impressionner quelqu'un qui nous plaît. Ça suggère plutôt que la consommation de viande par les êtres humains, prise dans son ensemble, c'est peut-être littéralement le plus grave problème du monde.
Ouais, je sais. 74 milliards d'animaux, tout ça, mais une personne, elle contribue que de manière infime à cette injustice, en fait.
C'est vrai, tu contribues qu'à un infime pourcentage. Mais ce pourcentage infime est encore extrêmement nocif. Si tu continues à manger de la viande, tu mangeras probablement plus de 2000 animaux terrestres pendant toute ta vie.
Ouais, bon, ok. C'est très fort ce que tu dis. Je vais devoir y réfléchir encore un peu quand même avant de changer mon style de vie. Hein.
D'accord, mais laisse pas ça de côté trop longtemps. La triste vérité, c'est que la plupart du mal est fait par des gens qui ne se sont jamais vraiment décidés à être bons ou mauvais. Bon voilà, maintenant quand quelqu'un vous dira « Ah mais moi je pourrais jamais être vegan », vous pourrez juste leur envoyer cet épisode. Merci à Joseph pour cet enregistrement, pendant lequel on s'est bien marré, il faut avouer. Merci pour vos messages de soutien, vos encouragements, mais aussi pour vos retours critiques quand ça arrive. Je suis content de savoir qu'il y a des personnes vigilantes qui me suivent et qui peuvent me faire savoir leur désaccord quand elles ont l'impression que je dis quelque chose qui n'est pas exact ou mal informé. Si vous aimez Comme un poisson dans l'eau, eh ben partagez-le et laissez des étoiles, des avis et des commentaires. Écrivez-moi, tout ça. Bisous.